السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله جميعا وبياكم. Ce qui concorde avec 2008 بإذن الله عز وجل. Nous sommes toujours avec le livre La personnalité de la musulmane. Nous sommes, inshallah ta'ala, au 23e sous-chapitre. Naam, c'est-à-dire, elle aide la femme endettée. Avant cela, le chapitre naam, qui était avant cela, on parlait de, naam, une seconde, on parlait de, elle était compatissante. Naam, on disait, elle était compatissante. Ensuite, on a dit aussi, dans le 22e, non. On a dit dans le 22e, attendez, je le cherche. Non. Taïb, une seconde. Elle œuvre pour le bien des gens. Non, elle œuvre pour le bien des gens. Barakallahu fik. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va voir quoi? On va voir le 23e, c'est-à-dire, elle aide la femme endettée. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La vraie musulmane est d'une nature indulgente et bienveillante. Quand l'une de ses sœurs lui est redevable d'une somme d'argent et que cette sœur ne peut pas s'acquitter de sa dette à cause d'une difficulté passagère, elle lui accorde un autre délai de paiement et patiente jusqu'à ce que sa gêne se transforme en aisance. Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet, Coran 2:280, il a dit, à celui qui est en cessation de paiement, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. C'est-à-dire, à celui qui a une gêne ou bien a des problèmes financiers, il ne peut pas payer, hein, il a dit, accordez-lui un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Accorder un moratoire aux débiteurs est un comportement noble recommandé par l'islam, car il reflète l'humanisme du croyant envers ses semblables. C'est aussi un acte d'obéissance à Allah Azza wa Jal, dont la vertu consiste à délivrer le croyant des afflictions qui surviennent au jour de la résurrection et de l'abriter sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. D'après Abu Qatada, radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aimerait qu'Allah azza wa jal le délivre des afflictions du jour de la résurrection, qu'il délivre un débiteur de sa dette ou qu'il l'allège. Rapporté par Muslim, voir Sharh Muslim, volume 10, page 227. Quand une musulmane est aisée et qu'elle allège la dette que sa sœur lui doit ou l'en exonère, Allah Azza wa Jal la récompensera par une rétribution considérable, par une rétribution, et la délivrera des frayeurs du jour de la résurrection, et confirmant la récompense qui lui est due sont multiples. En voici quelques-uns. D'après Abu Huraira, qu'Allah Azza wa Jal l'agrée, Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait un homme qui prêtait de l'argent aux gens et qui disait à son commis, qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui disait, quand tu iras voir un débiteur en difficulté, fais-lui remise de sa dette. Afin qu'Allah Azzawajal me fasse remise de mes dettes. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, comme on dit en arabe, comme Allah Ta'ala a dit, quelqu'un qui est bienveillant, c'est quoi sa récompense? C'est la bienveillance. Cette personne était bienveillante. Pourquoi? Elle disait à son commis, quand tu iras voir quelqu'un, hein, qui doit me donner, qui doit me rendre ce que je lui ai prêté comme argent. Si tu le trouves en difficulté, alors fais-lui remise de sa dette jusqu'à ce qu'il me fasse remise. Pardon, fais-lui remise de sa dette. Pourquoi? Afin que Allah Azzawajal me fasse remise de mes dettes. Et en effet, quand il mourut, Allah Azzawajal lui fit remise. D'après Abu Mas'ud al-Badri, qu'Allah Azzawajal l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors de la reddition des comptes d'un homme d'une époque antérieure à la vôtre, on ne trouva dans son actif aucune bonne action, hormis le fait que c'était un riche qui faisait des transactions avec les gens et qui ordonnait à ses commis de faire remise aux débiteurs en difficulté. Allah, à lui la puissance et la majesté, lui dit alors, il nous sied plus qu'à lui d'agir de la sorte. Faites-lui remise de ses péchés. Apporté par Muslim. Naam. Donc cet homme, quand il a rencontré Allah Azzawajal, il l'a rencontré avec aucune bonne action. À part quoi? À part que cet homme, Mashallah, naam, quand il faisait les transactions parce qu'il était riche, il ordonnait à ses commis de faire remise aux débiteurs en difficulté. Alors Allah Azzawajal dit, il nous sied plus qu'à lui d'agir. Naam, il nous suit plus qu'à lui d'agir de la sorte. Si lui il fait une remise, pourquoi moi qui suis son créateur ne vais-je pas faire la remise? Et Allah Azzawajal lui a fait remise de ses péchés. Naam pour le whisper. Au jour de la résurrection, on ramènera devant Allah Azzawajal l'un de ses serviteurs à qui il a accordé une richesse. Allah Ta'ala lui dit alors, qu'en as-tu fait dans ce bas monde? Qu'en as-tu fait dans ce bas monde? Et comme ils ne pourront rien cacher à Allah Azzawajal en ce moment, alors l'homme dira au Seigneur, tu m'as accordé une richesse qui t'appartient et je l'ai employée dans des transactions avec les gens. J'avais l'habitude d'être indulgent. J'accordais des facilités aux gens aisés et des sursis prolongés aux débiteurs en difficulté. Suite à cela, Allah Azzawajal a dit, il me sied plus que toi, il me sied, il me convient plus que toi d'agir de la sorte. Il a dit, faites remise à mon serviteur de ses péchés. Et Uqba ibn Amir et Abdullah ibn Mas'ud al-Ansari, qu'Allah Azzawajal les agrée, dirent, c'est ainsi que nous avons entendu cela de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rapporté par Muslim, voir Sharh Sunnah, pardon, voir Sharh Sahih Muslim, volume 10, page 225. Donc, voyez comment le fait seulement, Naam, de faire une remise à quelqu'un qui a des difficultés à payer peut te faire rentrer au paradis et peut te faire pardonner tes péchés bi'idhni azza wa jal. Naam. Même celui qui est aisé et qui peut payer, il est bien en islam et conseillé de quoi? De lui faire aussi des facilités. Quant à celui qui est en jeûne et a des difficultés pour payer, celui-là, bi'idhni azza wa jal, on doit lui faire un sursis. Naam. Et ce que je veux dire ici, inshallah ta'ala, c'est beaucoup de gens ne connaissent pas une chose. Qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils ne savent pas que quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, hein, en islam, prêter à quelqu'un, ça rentre dans l'adoration. C'est une adoration qu'on fait. Hein, comme on fait la prière, on fait la zakat, on donne et on prête aux gens, surtout ceux qui n'ont pas les décisions, de l'argent. Dans quel but? Dans le but de se rapprocher d'Allah Azzawajal avec cette action. Dans le but de rentrer au paradis. Dans le but d'être préservé de l'enfer. C'est pour ça que vous avez remarqué que l'islam interdit à quelqu'un de prêter quelque chose, que ce soit un argent ou n'importe quoi, si ça attire un bénéfice. Est-ce que vous savez que quand tu prêtes à quelqu'un de l'argent, il est interdit que tu prennes de lui des bénéfices. Tout le monde sait cela. Mais est-ce que vous savez que il n'est pas permis aussi de prendre un cadeau? Imagine que, par exemple, le roi Rabat me dise, Yachir, prêtez-moi 1000 euros, je suis en difficulté, et que je lui prête cette somme. Ensuite, après une semaine ou là, le roi Rabat va acheter une montre. Il va me dire, Cher, voilà, c'est un cadeau. Naam. C'est interdit de la prendre. Vous savez cela? C'est interdit de la prendre. Pourquoi? Parce que s'il m'a donné cette montre, c'est en général parce que je lui ai donné cet argent, je lui ai prêté cet argent. Donc cet argent que je lui ai prêté va m'attirer des bénéfices. Il m'a attiré quoi? Il m'a attiré une montre. Naam. Donc comment je fais ici? On fait comme a dit Cheikh Ibn Outaymin, Allah yarhamou. Ou bien on n'accepte pas carrément, ou bien des fois on a honte de la personne. Et on ne sait pas, on a honte de lui dire on n'accepte pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On accepte, j'accepte la montre que le Rouraba va me donner. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Naam. Je choisis entre deux choses. Naam. Je vois combien qu'elle coûte. Par exemple, elle coûte 10 euros. Je vais lui acheter une montre de 10 euros moi aussi et je la lui donne aussi comme cadeau pour me débarrasser des 10 euros qu'il m'a donné. Naam. Ou bien j'achèterai quelque chose de son équivalence. Ou bien, troisième solution, maintenant je vais demander combien coûte cette montre. On me dit elle coûte 10 euros. Et moi, combien je lui ai prêté? 1000 euros. Donc, la prochaine fois, quand il va me rendre mon argent, je ne vais accepter de lui que 990 euros. Les 10 autres, je ne vais pas les accepter. Je vais lui dire, c'est en contrepartie de la montre. Ou bien, si je ne veux pas lui dire, je lui dis, donne-moi seulement 990, ça me suffit, Inch'Allah ta'ala. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en islam, puisque on ne prête que pour le visage d'Allah, donc vous comprenez naturellement qu'il est interdit, hein, de faire l'usure, de faire les intérêts, de prêter à quelqu'un et de lui dire je te prête 1000 euros et tu me rends 1010 ou bien 1020 ou bien 1500 et comme ça. Non. Ou bien je te prête 1000 euros, mais à condition tu me prêtes ta voiture. Ou bien à condition tu me donnes une chambre. Tu me donnes une chambre, je vais l'habiter pendant 2 mois et comme ça. Tout cela est interdit en islam. Tu prêtes à quelqu'un pour le visage d'Allah ou bien tu ne lui prêtes pas. Choisis. Choisis entre les deux. Tu le fais pour Allah ou bien ne le fais pas. Naam. Tayyib, j'allais dire ici quelque chose d'important. Tayyib. Naam. Donc quand on prête en islam, c'est comme j'ai dit, on prête pour le visage d'Allah Azzawajal. Si je prête à l'Ouraba, je lui prête. Sûrement à la fin, il va me dire PV cher, donnez-moi les 1000 euros. L'Ouraba, je plaisante. Je vais emprunter ou la prêter à l'Ouraba 1000 euros. Et ensuite, lui, quand il me rend mon argent, il me rend 1200 euros. L'Ouraba, est-ce que ça c'est interdit ou là c'est pas interdit? Réponds-moi puisque c'est à toi que je vais prêter l'argent. Je te prête 1000 euros. Et ensuite, dans 2 mois ou là 3 mois, tu vas me rendre mes 1000 euros avec 200 euros. Tu vas me dire, voilà, 1200 euros. Est-ce que c'est permis ou est-ce interdit? Le roi là-bas, j'attends ta réponse. C'est pas interdit. Alhamdoulilah, moi j'ai eu peur. J'ai dit, il va me dire c'est interdit, comme ça il ne va pas m'ajouter les 200. Alhamdoulilah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, khiyarukum, khiyarukum, ahsanukum qada'an, ou ahsanukum, ahsanukum qada'an. Il a dit, les meilleurs de vous, ce sont les meilleurs qui rendent, yani, quand on leur prête. C'est-à-dire, ils rendent la chose et ils donnent plus. Le messager d'Allah, des fois, il empruntait, par exemple, un petit chameau et il rendait quelqu'un de plus grand. Ça veut dire de plus cher, bien sûr. Taïf. Maintenant, autre chose. Ce que ne savent pas aussi beaucoup de gens, c'est que quand tu prêtes à quelqu'un de l'argent, s'il est en difficulté, il est interdit de lui demander de rendre cet argent jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Est-ce que vous saviez cela? Naam. Si tu prêtes à quelqu'un de l'argent, et entre parenthèses, puisque tu lui as prêté cet argent pour Allah et pas pour les intérêts, maintenant cette personne est dans les difficultés, elle n'a pas de quoi te rendre, dans ce cas il est interdit de lui demander de rendre l'argent jusqu'à ce qu'elle soit dans l'aisance. Beaucoup de gens ne savent pas cette chose. Naam, Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa in kana du usratin fa nadiratun ila maysara wa an tasaddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Verset Al-Baqarah 280. Qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, quand vous prêtez à quelqu'un de l'argent, naam, wa in kana du usratin, s'il est en difficulté, attendez-le, naam, jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attendez-le, patientez jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Ça veut dire que si tu lui dis, donne-moi mon argent, et tu sais qu'il est dans quoi? Il est dans les difficultés. Bien sûr, maintenant, si tu le vois en train de jouer avec de l'argent et en train d'acheter des choses futiles, etc., là, tu lui demandes. Je lui dis, Akhi, s'il te plaît, j'ai besoin de mon argent. Naam. Mais moi, je dis, quand tu vois qu'il est dans la gêne et qu'il n'a pas, il est interdit de lui demander qu'il rende l'argent jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'il soit dans les onze. Bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Et qu'a dit Allah Ta'ala à la fin du verset? Il a dit, wa anta saddaqu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah al-Azim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et si vous, si je puis dire, et si vous, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité. Vous saviez, naam, et il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Je vois qu'il est dans la difficulté. J'ai dit, je n'ai pas le droit de lui dire, rends-moi mon argent. J'attends. Mais, Allah Ta'ala dit, mais, malgré cela, si tu veux dire à l'Ghuraba, ça y est, je n'ai plus envie de l'argent, prends-les, alors là, c'est vraiment mieux pour vous, si vous saviez. Voilà ce qu'a voulu dire Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tu prêtes à quelqu'un de l'argent, naam, tu veux avoir de grandes récompenses demain, alors fais-lui remise de la dette. Dis-lui, khlas, l'argent que je t'ai prêté, je n'en veux plus. Je te le laisse pour Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit, naam, si vous saviez, naam, si vous saviez. Tayyib, je vais vous dire autre chose aussi qu'il n'y a pas dans le livre, mais qui est importante aussi. C'est quoi? C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, naam, a dit, dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, une seconde, non, il a dit, je vous donne le sens, c'est à peu près, mais vous allez comprendre, c'est un hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Non. Le messager d'Allah a dit, quand quelqu'un prête de l'argent à un autre, non. Ensuite, par exemple, il lui fixe une date, par exemple, il lui dit, voilà 1000 euros pour 6 mois. Maximum, dans 6 mois, tu me rends cet argent. Si c'est 1000 euros. Naam. Qu'a dit le messager d'Allah? Il a dit, Pour chaque jour, Naam, pour chaque jour que tu vas l'attendre pendant les 6 mois, Allah Ta'ala va t'écrire des récompenses exactement, yani, comme la somme que tu lui as donnée. Subhanallah. Imagine, tu as prêté 1000 euros, chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala va t'écrire au moins 1000 récompenses chaque jour jusqu'à ce que arrive les 6 mois, le délai. Le hadith n'est pas terminé. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite, quand le délai arrive, si tu patientes, quand le délai arrive, si tu patientes, tu auras pour chaque jour après le délai passé le double de la somme que tu lui as prêtée. Après 6 mois, c'est-à-dire avec le cas de Rouraba, après 6 mois, chaque jour, ce sera combien? 2000 euros. Chaque jour. Jusqu'au jour où il rentre. Naam. Vous voyez, subhanallah, et faites la comparaison entre ce que nous donne Allah Ta'ala quand on fait un prêt aux gens, fisabilillah, et les grands péchés qu'on a lorsqu'on fait un prêt fisabil shaitan, lorsqu'on donne avec de l'usure. C'est pour ça, moi, quand je vois de temps en temps comme ça des annonces dans les journaux, dans Internet, etc., prête 1000 euros par exemple, dans un an, remboursable à 10%. Je dis subhanallah al-azim. Et cette personne, hein, s'appelle Mohamed et Abdurrahman. Si elle s'appelait Jacques ou la Jacqueline, je dis classe des kofars, mais des musulmans, Omar, Ali, Othman, et comme ça, il te dit 10%. Je lui dis, subhanallah al-azim, on n'a pas peur d'Allah à ce point. Ensuite, je me dis, mais c'est ça le djihad. C'est ça, quand quelqu'un ne connaît pas la religion, il peut faire ça, il peut faire plus. Je vous rappelle surtout, je vous rappelle seulement que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'usure, c'est beaucoup de rameaux. Il a dit 72 rats, plus petits péchés. Dans l'usure, c'est comme celui qui fait la zina avec sa mère en pleine rue. Tous les gens sont en train de voir. Ça, il a dit, c'est le plus petit péché. C'est-à-dire, c'est un euro ou là, un franc ou là d'usure, d'intérêt. C'est comme celui qui a fait la zina. La zina, c'est grave ou là, c'est pas grave? C'est très grave. Avec qui? Avec la voisine. Non, avec la mère. Subhanallah. Non, avec la mère. Où? En cachette? Dans la salle de bain? Non, dans la rue. Subhanallah, Allahu Akbar. Alors ceux qui font de l'usure et qui laissent leur argent comme ça dans les banques pour avoir les intérêts, qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils vont le rencontrer demain. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus petit péché, dans un hadith authentique, le plus petit péché par rapport à l'usure, c'est comme celui qui a fait 36 fois la zina. 36, naam, le plus petit péché pour l'usure, ceux qui prennent des intérêts, des avantages, c'est comme celui qui fait 36 fois la zina. Donc, celui qui fait maintenant la zina, il est mieux que celui qui a l'argent dans la banque avec des intérêts. Naam. Qu'Allah Azzawajal nous en préserve. Tayyib. La générosité est une qualité qui distingue toute musulmane engagée à appliquer les principes de l'islam et à adopter ses valeurs morales. À chaque occasion propice à la charité, elle tend une main secourable et généreuse aux nécessiteux. Elle le fait en étant convaincue que tout acte généreux de sa part ne sera pas ignoré de la part d'Allah Azzawajal, et que Allah Azzawajal lui assurera l'estime dans ce bas monde et la vaste récompense dans l'autre monde. Allah Ta'ala a dit, tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. 2 273. Allah Ta'ala a dit aussi, ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah ressemblent à une graine d'où naissent 7 épis, contenant 100 graines. 100 graines chacun. Chaque épi contient 100 graines. Et Allah Ta'ala multiplie la récompense à qui il veut. Allah est large et omniscient. Donc vous voyez, celui qui dépense un franc, un sou, fi sabilillah, ça ressemble à une graine qui donne 7 épis. Et chaque épi donne 100 graines. Déjà 700 graines, subhanallah. Et Allah Ta'ala multiplie encore la récompense à qui il veut. Allah Ta'ala dit aussi dans le Coran, toute dépense que vous faites en aumône, il vous la remplace. Coran 34, 39. Vous avez entendu ce que Allah Ta'ala a dit? Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. Naam. En arabe, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuh. Allah Ta'ala dit, toute dépense que vous faites, fisabilillah, Allah donne 10 euros, fisabilillah, vraiment pour Allah. Et tu verras que un jour, deux jours, une semaine, un mois, Allah Azzawajal va te remplacer cet argent, que tu le saches ou que tu ne le saches pas. Naam. Car beaucoup de gens ne font pas attention. Il y a de l'argent qui rentre, mais ils ne savent pas que parce qu'ils ont donné la fois passée. Et Allah Ta'ala est en train de le remplacer. Ils ne savent pas. Naam. Ensuite, Allah Azzawajal a dit, tout ce que vous dépensez de vos biens sera pour vous-même. Naam. Tout ce que vous dépensez, fisabilillah, sera pour qui? Sera pour vous. Est-ce que Allah Azzawajal est pauvre? On va l'enrichir avec notre argent? Jamais. Tu es en train de cacher ton argent pour le trouver demain dans la grande banque qui t'attend. Qui t'attend? Naam, la banque du jour de la résurrection. Allah Ta'ala a dit, et vous ne dépensez que par désir du visage d'Allah. Il a dit, quand vous dépensez ou là vous donnez quelque chose, faites-le pour mon visage. Ce n'est pas pour les gens. Ce n'est pas comme font certains, ils ne prêtent de l'argent qu'aux personnes avec lesquelles elles ont des intérêts. Naam. Si cette personne vient emprunter de l'argent chez moi, je vois c'est qui cette personne. Si elle est pauvre, si elle n'a pas un travail intéressant, si je n'ai pas envie de je sais pas de demander sa fille, si ça, je lui donne pas. Mais s'il y a une personne qui est, mashallah, riche, ou bien très connue, ou bien je ne sais pas, un commissaire, ou là je ne sais pas qui, ah, celui-là, je lui prête. Naam. Il me dit, prête-moi 100 euros. Je lui dis, pourquoi tu ne prends pas 1000? Prends 1000 et après tu les rends. Subhanallah al-Azim. Naam. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour le visage d'Allah. Quand c'est pour le visage d'Allah, ça ne t'intéresse plus la situation sociale de la personne. Ce qui t'intéresse, c'est d'avoir des récompenses. C'est d'avoir des récompenses. Ensuite, Allah Ta'ala dit, tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres, vous sera récompensé pleinement et vous ne serez pas lésé. La vraie musulmane doit avoir la certitude que si elle n'évite pas l'avarice et si elle laisse l'envie d'accumuler les richesses s'emparer d'elle, alors ses biens seront dénués de bénédictions et subiront ainsi la diminution. Naam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien le hadith qui va venir, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Écoutez bien pour les avares, ceux qui ont de l'argent et qui ne veulent pas donner fisabilillah, ceux qui ont de l'argent qui ne veulent même pas prêter fisabilillah. Écoutez ce qui vous attend. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque matin, qu'est-ce qu'il y a chaque matin, Rasulullah? Apprends-nous la religion, on est vraiment loin. Qu'est-ce qu'il y a chaque matin? Écoutez ce qu'il dit. Chaque matin, deux anges descendent du ciel. L'un d'eux dit, Ô Allah, accorde une compensation à celui qui dépense en aumône, c'est-à-dire aujourd'hui. Naam. Donc chaque jour, il y a deux anges qui descendent et ils font des doigts. Le premier ange, qu'est-ce qu'il dit dans ses doigts? Il dit, ô Allah, quiconque a donné de l'aumône aujourd'hui, remplace-lui son argent. Compense-lui la chose qu'il a perdue. Et le deuxième ange, qu'est-ce qu'il dit? Ô Allah, inflige la perte à tout radin. Ô Allah, chaque avare qui n'a pas donné aujourd'hui, fais-lui diminuer son argent. fais-lui disparaître son argent. Subhanallah al-Azim. Donc, que ceux qui font l'aumône, hein, je leur annonce la bonne nouvelle qu'il y a un ange qui te fait des doigts à chaque jour. Et qu'il dit, Ya Allah, ne laisse pas celui-là. Naam, il a fait l'aumône, remplace-lui son argent. Et j'annonce la mauvaise nouvelle aux radins et aux radines. Aux avares, je leur dis attention, il y a un ange spécialement qui quoi? Qui fait des doigts à chaque jour pour la personne qui ne veut pas faire l'aumône, fi sabilillah. Naam. Il dit à Allah, fais-lui diminuer son argent, fais-lui disparaître son argent, inflige-lui la perte. Et comme ça. Et dans un hadith qudsi authentique, rapporté par Bukhari et Muslim, Allah Azza wa Jal a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ô fils d'Adam, dépense et je dépenserai pour toi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala te dit, n'aie pas peur, dépense, je vais dépenser pour toi. N'aie pas peur, courage. N'aie pas peur, donne 1 euro, donne 2 euros, n'aie pas peur, tu vas pas mourir. Allah Ta'ala va dire, tu vas pas mourir de pauvreté, je vais dépenser pour toi. Naam. La musulmane sincère doit en outre avoir la ferme conviction que non seulement ce qu'elle dépense en aumône ne diminue en rien ses biens, mais qu'il sera aussi ajouté à son actif des bonnes actions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a justement dit dans un hadith authentique, diminue jamais une richesse. Ma naqasa malun min sadaqa. L'aumône ne diminue jamais une richesse. Donc, si vous entendez quelqu'un dire, Wallah, j'étais riche, masha'Allah, et tout mon argent est parti comme ça en aumône. On lui dit menteur. La richesse, au contraire. Naam, au contraire, l'aumône te fait remplacer. Naam, peut-être que tu n'as pas donné ton argent, c'est pour ça que tu dis comme ça. Sinon, Allah Ta'ala a promis. Et jamais Allah Azza wa Jalla ne promet et ne tient pas sa promesse. Il a dit, ô fils d'Adam, dépense. Et je dépenserai pour toi. Dépense et je dépenserai pour toi. On rapporte aussi à ce propos que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea Aïcha, qu'Allah l'agrée, en lui disant, qu'en reste-t-il? Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré comme ça le soir à la maison, le matin ou le midi. Il a dit, qu'en reste-t-il de la brebis qu'on a égorgée hier, ou l'avant-hier ou là? Est-ce qu'il reste quelque chose? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, il n'en subsiste que l'épaule. Yani, il ne reste plus rien, sauf l'épaule. Il lui dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, c'est plutôt sa, totalité qui subsiste, sauf l'épaule. Il lui a dit, sauf l'épaule, c'est l'épaule qui ne subsiste plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce qui a été donné en aumône a subsisté. Puisque l'épaule est toujours là et n'a pas été donnée en aumône, naam, donc yani, elle n'a pas subsisté. Donc vous voyez, quand on donne quelque chose, c'est ce qu'on a donné qui a subsisté, car il a été se cacher chez Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il va être perdu? Il va être naam, il va se perdre. C'est impossible. Allah Ta'ala l'a écrit, les anges l'ont écrit. Allah Ta'ala l'a su, l'a vu. Donc, il a subsisté. Mais la chose que tu n'as pas encore donnée ici, l'épaule, celle-là, elle n'est pas encore rentrée dans quoi? Elle n'est pas encore rentrée dans les choses qui subsistent. Dans une autre version rapportée par Bukhari, rahimahullah, il est dit, la musulmane doit s'empresser de faire l'aumône, notamment lorsqu'elle est sollicitée pour des considérations d'intérêt général. Naam. Imam al-Bukhari rahimahullah rapporte que Abdullah ibn Abbas, qu'Allah Ta'ala l'agré, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit un jour de fête et accomplit une prière de deux rak'a, le jour de l'Aïd, sans en accomplir une autre, c'est-à-dire ni avant ni après. Naam. Il alla ensuite trouver les femmes qui étaient assises, naam, au fond de la mosquée, qui assistaient à la prière de l'Aïd avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et leur enjoignit de faire l'aumône. Il leur a dit, craignez Allah Azza wa Jal, faites l'aumône. Vous connaissez le hadith. J'ai vu que vous étiez la plupart qui allaient remplir Jahannam, etc. Alors chaque femme fit alors aumône de quoi? Chaque femme fit alors aumône de ses boucles d'oreilles et de son collier. Hadith, voir Fath al-Bari, volume 9, page 330. Imaginez une femme qui peut donner ses boucles d'oreilles, naam, ses boucles d'oreilles en or, en vrai or, naam. Elle le donne, fils Abillah. L'autre, elle donne un collier, naam. Il mettait ça sur le camis de Bilal, radiallahu ta'ala. Un collier, vous savez combien ça coûte, naam. Il le donnait, fils Abillah, azza wa jal. Dans une autre version rapportée par Bukhari, il est dit, alors le messager d'Allah alla chercher les femmes et leur enjoignit de faire l'aumône. Elles se mirent alors à déposer leurs grosses et petites bagues dans le vêtement de Bilal. Naam. Voir Fath al-Bari, volume 10, page 330. Dans une autre version, rapportée également par Bukhari, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, a dit, le jour de la fête, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplit une prière de deux rak'at, sans en accomplir une autre, ni avant ni après. Ensuite, accompagné de Bilal, il alla chercher les femmes et les exhorta à faire l'aumône. Alors chaque femme déposa ses boucles d'oreilles. Imagine que tu passes, ma sœur, devant une mosquée, et que tu saches que ils sont vraiment dans le besoin de construire une mosquée. Non, ils sont vraiment dans le besoin de construire. Hein? Et que tu enlèves tes boucles d'oreilles et tu les jettes comme ça dans le sac ou là je sais pas où, on est en train d'amasser yani de l'argent pour la mosquée. Qu'est-ce qui t'attend demain quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Non, parce que donner des boucles d'oreilles, c'est sûrement cher. Et pourtant, pour toi, la construction d'une mosquée a été plus chère que de t'embellir ou là de paraître riche ou là de paraître belle devant les gens. Regarde qu'est-ce qui va t'attendre demain devant Allah Azza wa Jal. Et regardez les compagnonnes, elles donnaient des boucles d'oreilles, des colliers, des bagues, et imaginez leur situation. Toi maintenant, tu peux donner des boucles d'oreilles et tu ne vas pas mourir de faim. Tu vas donner des boucles d'oreilles et tu ouvres le frigo, mashallah, il y a tout ce que tu veux. Eux, quand elles donnent les boucles d'oreilles, peut-être qu'elles vont rester des jours sans manger. Naam, seulement, tout juste, un peu de date et de l'eau. Naam, mais elle sait qu'elle a fait quelque chose pour Allah. Elle a fait quelque chose, naam, parce qu'elle a la grande conviction dans son cœur que ce qui l'attend demain est beaucoup mieux, hein, que ce qui se passe dans ce bas monde. Dans le domaine de la générosité, parmi nos prédécesseurs adoptèrent un comportement digne de cette valeur noble, au point où les historiens conservent jusqu'à aujourd'hui les hauts faits s'y rapportant et les citèrent en exemple. Taïeb, Rourabe, vous m'entendez? Alhamdulillah. Dans la notice biographique que l'imam Dahabi rahimahullah a consacré à notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, voir Sir A'lam Nubala, volume 2, page 187. Naam. Qu'a rapporté l'imam Zahabi rahimahullah en ce qui concerne Aïcha radiallahu ta'ala anhu. Il a rapporté qu'une fois, notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha a donné en aumône 70 000 dirhams. A donné en aumône 70 000 dirhams. Allahu Akbar. Naam, notre mère Aïcha, elle a donné une fois en aumône 70 000 dirhams. Alors que, pas assez riche, elle raccommodait la bordure de sa tunique. Alors que, pas assez riche, elle raccommodait la bordure de sa tunique. Donc, notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha a donné une fois combien? En une seule fois d'entrée, elle a donné 70 000 dirhams. Vous savez, c'est combien 70 000 dirhams? Écoutez, 12 dirhams, ça fait un dinar. 12 dirhams, ça fait un dinar. C'est-à-dire, elle a donné 5 833. 5 833 dinars. D'une seule fois. Naam. Un dinar. Un dinar égale 5 grammes. Un dinar égale 5 grammes. Naam égale 5 grammes d'or. Un dinar égale 5 grammes d'or. Donc notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha a fait l'aumône de 29 165. 29 165 grammes d'or. C'est-à-dire que elle a donné en aumône 29 kilos. 29 kilos, naam, 29 kilos d'or. 29 kilos, 165 grammes d'or en aumône. Dites-moi, barakallahu fikoum, 29 kilos, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il y a quelqu'un qui peut donner 29 kilos d'or en aumône. Ça achète quoi, 29 kilos? Ça achète des appartements, des villas, des je ne sais pas quoi. Subhanallah al-Azim. Naam, regardez quand quelqu'un a la foi, naam, et la grande conviction que ce qu'il va donner, naam, va être marqué, inscrit, et je vais le retrouver demain devant Allah Azza wa Jal. Al-Dhahabi, rahimahullah, rapporte qu'une autre fois, Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiallahu ta'ala anhu, lui fit don de 1000 dirhams qu'elle offrit en aumône le jour même avant le coucher du soleil. Allahu Akbar. Une autre fois, Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, qui était le calife bien guidé, hein, lui a donné 1000 dirhams comme don. Elle les a offerts en aumône le jour même avant le coucher du soleil. Sa servante lui dit alors: si seulement tu avais mis un dirham de côté pour acheter de la viande. Si au moins, ma mère Aïcha, si au moins tu avais laissé un dirham de côté, on aurait acheté un peu de viande. Cela fait peut-être 6 mois ou là, un an ou là qu'on n'a pas mangé de viande. Pourquoi tu n'as pas laissé un dirham seulement pour manger de la viande? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu: tu aurais dû me prévenir. Naam, tu aurais dû me prévenir. C'est-à-dire que elle a oublié, elle s'oublie. Naam, elle s'oublie. Quand elle fait, elle donne quelque chose, fisabilah, elle s'oublie elle-même. Elle s'oublie qu'elle doit manger. Elle s'oublie que ceci, cela. Naam. Donc, subhanallah al-azim, elle lui a dit: tu m'as même pas rappelé que on devait laisser au moins un dirham pour acheter un peu de viande. Et la viande, bien sûr, on la mange que une fois par semestre, là, je ne sais pas. Mais Allah Ghalib, tu ne m'as pas rappelé, j'ai donné tout ce que j'ai. C'est-à-dire que moi, quand je donne le fisabilillah, je m'oublie. J'oublie que je dois manger, j'oublie que je dois j'ai des enfants, j'oublie que je suis malade. Je donne tout. Subhanallah al-Azim. Une autre fois, Muawiyah, radiallahu ta'ala anhu, lui fit don d'un collier d'une valeur de 1000 dirhams. Elle le vendit aussitôt et on partagea le prix entre les mères des croyants. Allahu Akbar. Elle le vanda aussitôt et elle partagea le prix, c'est-à-dire son argent, avec qui? Elle le partagea avec qui? Avec ce qu'on appelle maintenant les coéposes. Imagine envoyer une part à la deuxième femme et une part à la troisième femme. Est-ce que ça existe ça, dans l'histoire, si ce n'est avec les pieuses, si ce n'est avec les compagnons, si ce n'est avec les mères des croyantes? Hein? Imagine. Imagine seulement qu'on dise à l'une des co-épouses, qu'on lui dit par exemple, Naam, on a entendu que tu as vendu ton collier. Tu as envoyé une partie de l'argent à ta co-épouse. Qu'est-ce qu'elle va répondre? Naam, la réponse, vous la connaissez, Inch'Allah Ta'ala. La réponse, vous la connaissez, Inch'Allah Ta'ala. Il rapporte aussi qu'un jour, Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu, lui envoya deux sacs contenant quelques 100 000 dirhams. 100 000 dirhams. Elle demanda alors qu'on lui apporte une assiette où elle les mit. Elle a mis tout cet argent sur l'assiette. Avant de les distribuer entre les gens. Le soir, elle a dit à sa servante, ô servante, apporte-moi mon repas pour rompre le jeûne. Car elle observait le jeûne de manière presque continue. Sa servante lui dit alors, ô mère des croyants, tu n'aurais pas pu nous acheter de la viande avec l'un des dirhams que tu avais donné en aumône, viande. Et Aïcha lui répondre, ne me blâme pas. Je l'aurais fait. Ne me blâme pas, j'avais oublié. Hein? Moi, je jeûne beaucoup. Et même pour moi, je n'ai pas gardé de l'argent pour manger. Tu vois? Mais ne me blâme pas. Hein? Si tu m'avais. Radiallahu ta'ala anha, bien sûr, elles n'ont pas la même mère. Esma, sa mère, c'est une kafira. Et Aïcha, sa mère, c'est Umrumen. Là, une musulmane, une croyante. Sa sœur Esma, radiallahu ta'ala anha, n'avait rien à lui envier en matière de générosité. Abdullah ibn Zubayr, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit, je n'ai jamais vu de femme aussi généreuse que Aïcha et Esma, sa sœur. Cependant, leur façon de faire acte de générosité n'était pas la même. Aïcha, radiallahu ta'ala anha, laissait s'accumuler les biens pour les distribuer ensuite, alors que Esma, radiyallahu ta'ala anha, les donnait le même jour sans en garder un sou pour le lendemain. Donc il y avait une différence entre Aïcha et sa sœur Esma. Aïcha, elle accumule l'argent, ensuite elle le donne comme ça, quand la personne, on lui donne une somme importante, ça lui fait plaisir. Esma, non, radiyallahu ta'ala anha, chaque sou qui tombe dans sa main, elle le donne, elle n'attend pas. Naam. Zainab bintou Jahsh, l'autre, une des mères, une de nos mères, une des épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la mère des croyants, travaillait de ses propres mains pour pouvoir faire l'aumône. Sur ce plan, elle était la plus généreuse parmi les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que Aïcha, qu'Allah ta'ala l'agrée, a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit un jour, parmi vous, celle qui me rejoindra le plus rapidement, c'est-à-dire celle qui va mourir après ma mort, sera celle dont la main est la plus longue. Alors les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ajoute Aïcha, se mirent à comparer la longueur de leurs mains. Naam. Dans un autre hadith, avec un roseau. Elle voulait savoir qui avait la main la plus longue pour savoir qui allait mourir la première. Ce fut cependant Zainab, yani, qui sortit la première, bien sûr. Qui mourut, pardon, la première. Et quand on a vu, on a trouvé que Zainab, c'était peut-être la plus petite, yani, question de taille, yani, des mères ou là, des épouses du messager d'Allah. Alors elles se sont étonnées et par la suite elles ont compris que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait dire quoi? Voulait dire la main longue, c'est-à-dire elle faisait beaucoup l'aumône. Ce n'est pas avoir une main yani, plus longue que l'autre de quelques centimètres. Naam. Pourquoi? Comme j'ai dit, elle travaillait beaucoup avec ses propres mains. Juste pourquoi? Pour pouvoir faire l'aumône. Nous, pourquoi on travaille avec nos mains? On travaille avec nos mains pour essayer de s'enrichir. Mais elle, radiyallahu ta'ala anha, elle travaillait avec l'idée que si elle pouvait avoir de l'argent pour le donner. Naam. On rapporte qu'une fois, naam, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lui envoya son allocation. Car elle était, naam, une des épouses du messager d'Allah qui avait droit, comme toute musulmane, à une allocation. Quand on la lui présenta, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, qu'Allah azzawajal pardonne à Omar. Qu'Allah ta'ala pardonne à Omar. Certaines de mes sœurs sont plus aptes que moi à redistribuer cette somme. Ils lui dirent, mais tout cela est à toi. Elle dit, Alhamdulillah, mais déposez cet argent et mettez un vêtement dessus. Ensuite, elle dit à Barza bint Rafi, et prend une poignée, ce sont des pièces d'or, bien sûr. Prends une poignée que tu donneras à ta famille. Pardon, tu donneras à telle famille. Ensuite, prends une autre que tu donneras à telle famille. En les citant. Et comme ça, en désignant certains de ses proches parents et des orphelins qu'elle avait en charge. Regardez. Naam, radiyallahu ta'ala anha, veuve, n'a pas de mari. Naam. Et qu'est-ce qu'elle fait de son allocation? De son allocation donnée à cette personne. Naam. Je connaissais une personne en Algérie qui est morte. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde et la fasse rentrer dans le paradis. Cette personne, des fois, quand on s'asseyait comme ça, on se rencontrait dans un café bien sûr très très calme, et naam, un café où il n'y a pas yani, les choses haram, etc. Naam. On s'asseyait comme ça, naam, et de temps en temps, il me disait, attends une seconde. Il se lève comme ça, naam, il sort dans la rue, je le vois par exemple avec un vieux. Naam. Ensuite, il vient s'asseoir. Ensuite, on discute, ensuite, je vois, il y a une femme qui est debout devant le café. Il me dit, attends une seconde. Il sort et il revient. Et comme ça, naam. Ensuite, moi, ça m'a un peu étonné. Ensuite, j'ai compris. Ou bien je l'ai vu, ou bien j'ai entendu. Maintenant, j'ai oublié. Que quoi? Que ces gens venaient, car à chaque fin du mois, naam, il leur donnait une paye. Il leur donnait une paye, comme ça, l'enveloppe. Naam. Je voyais comme ça, quand il donnait une enveloppe. Naam. Et comme ça, il faisait la chaîne, et venait à chaque fois. Subhanallah al-Adim. Il travaillait, fi sabilillah, avec son argent. Comment qu'il est mort? Comment qu'est morte cette personne? Cette personne a décidé de prendre 4 ou 5 personnes avec elle dans la voiture, yani pour les prendre au Hajj. Lui, cette personne, bien sûr, a fait le Hajj plusieurs fois. Elle a pris 4 ou 5 personnes comme ça. Elle a dit, vous venez avec moi, je vous emmène au Hajj. Naam. Ils sont partis au Hajj. Ils ont fait un accident de voiture. Naam. Cette personne, qui est un ami, est morte. Est morte. Elle est maintenant enterrée à ce qu'on appelle Tabouk. Vous connaissez Tabouk, hein, où il y a eu une grande bataille, la bataille de Tabouk. Naam. Il a été enterré là-bas, rahimahullahu ta'ala. Naam. J'atteste devant Allah subhanahu wa ta'ala que cette personne m'a dit une fois, elle m'a dit, tu parais très chagriné. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, oh là, alhamdoulilah, ça va, alhamdoulilah. Il m'a dit, non, là, tu paries chagrin, il y a quelque chose. Je lui ai dit, en effet, il y a quelque chose. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, maintenant que j'ai le bac, que j'ai le baccalauréat, je voudrais apprendre sciences islamiques. Je voudrais aller à la faculté et apprendre les sciences islamiques, c'est-à-dire faire une licence, mais je ne peux pas. Je lui ai dit, parce que, puisque j'enseigne, j'étais enseignant de langue allemande, j'enseigne, je ne peux pas joindre entre les deux. Alors je suis, pour cela, tu me vois chagriné. Naam. Le lendemain, il m'a rencontré. Il m'a dit, dis-moi, dans ton travail, c'est combien ta paye? Je lui ai dit, ma paye, c'est comme ça. J'ai oublié maintenant, ça fait très longtemps. Il m'a dit, et si je te donnais chaque mois une paye, est-ce que tu quitterais le travail et allez, tu vas apprendre la charia? Il dit, Allah, je sais pas, yani, si tu fais ça, bien sûr, les salafs ont fait cette chose. Les salafs ont fait cette chose. Ils disaient à certains gens, va demander la science et moi je te paye. Moi je te paye, ne travaille pas, va demander la science. C'est comme ça qu'il m'a dit. Je lui ai dit, Allah, yani, si tu veux, yani, je te force pas, c'est toi qui le veux. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, regarde, est-ce que tu veux que je te donne chaque mois ou bien tu veux que je te donne 4 ans d'un coup? 4 ans, je te paye maintenant 4 ans. 4 ans, le temps que tu commences, tu termines la licence. Je lui ai dit, Jazakallahu khayran, mais ne me donne pas 4 ans. Ne me donne pas 4 ans, je risque de les manger à droite ou à gauche. Et comme ça, mashallah, pendant 4 ans que je faisais mes études à la faculté, c'est lui qui me donnait la paye, mashallah. Allahu Akbar, et il est mort, rahimahullah. Pourquoi il m'a donné ça? Est-ce que pour me faire plaisir ou là parce que je suis son ami? Non. Il a fait ça pour Allah Azzawajal. Maintenant, moi, tout ce que je vous fais maintenant, lui, il partage avec moi les hasanat, les récompenses. Car il a été une cause et le sabab pour que quoi? Pour que j'étudie. Naam. Car moi, j'étais très chagriné. Je ne pouvais pas étudier et travailler en même temps. Mais il a été la cause. Alors maintenant, sa récompense, c'est quoi? Tout ce que je dis, bi'idhnillah ta'ala fi sabilillah, il a la moitié des récompenses s'il n'a pas plus. S'il n'a pas plus. Car il a été la cause. Donc regardez les gens qui pensent à demain. Les gens qui voient loin. Ils voient très très loin. Ils voient, naam, en payant les études à cette personne, qu'est-ce que je vais gagner? Il a dit, je vais gagner que quand il terminera sa licence et il sera imam ou il fera des doulous, chaque dars, chaque mot qu'il dira, je prendrai avec lui des récompenses. Je reste à la maison avec mes enfants, en train de rire et de discuter avec ma femme, et lui il est en train de faire des doulous, et moi je prends des récompenses. Et maintenant, lui il est dans sa tombe et les récompenses partent directement chez lui. Naam. On lui dit, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça s'arrête pas. On lui dit, tout ce que tu as fait pour que la da'wa marche et pour que l'islam marche et se propage. Puis Allah Azzawajal le récompense. Naam. Allah Azzawajal le récompense. Naam. On revient à nos mères. On revient à nos mères. On était. Naam. طيب alors je disais que elle a dit mets ta main sous le vêtement et donne à telle famille et donne à telle famille et donne à telle famille bi'idhni azawji. طيب une seconde inchallah. طيب alors quand Barza remarqua qu'il en restait un peu sous le vêtement, un peu seulement, elle a dit à Zaynab, qu'Allah Azzawajal t'accorde ton pardon. Ô mère des croyants, par Allah, nous aussi, on a droit à cela. On a droit un peu à cette chose. Elle lui répondit, ce qui est sous le vêtement vous appartient. Naam. Car là, l'autre femme était en train seulement de distribuer aux gens. Elle lui a dit, et moi, yani, je n'ai pas. Yani, je ne prends pas un peu de cet argent. Elle lui a dit, tout ce qui reste maintenant, prends-le. Elle a dit, nous y trouvâmes alors 85 dirhams. Alors Zaynab tendit ensuite ses mains vers le ciel et invoqua Allah Azzawajal en disant, Ô Allah, fais qu'aucune allocation de la part de Omar ne me parvienne. Naam. Barza ajoute, elle décéda effectivement avant l'écoulement de l'année. Allahu Akbar. Voir Tabarat ibn Sa'd. Volume 8, page 109. Naam. Vous allez dire, pourquoi elle fait des doigts pour que Allah Azzawajal fasse de sorte que Omar ibn Khattab ne lui donne plus cette allocation. Naam. Parce que, comme elle l'a dit aussi ici, naam, elle a dit que c'était vraiment une épreuve. Naam. Avoir beaucoup d'argent, c'est une épreuve. Il faut donner ce billet, il faut ceci. Naam. Elle a dit, oh Allah, faites que, yani, Omar ne m'envoie plus cet argent, naam, parce que elles avaient dans le cœur que cet argent, les pauvres, on a une grande responsabilité envers les pauvres et les nécessiteux dans cet argent. Mais quand quelqu'un n'a pas cette chose dans le cœur, bien sûr, il ferait des doigts en demandant à Allah Azzawajal de lui yani, agrandir cette allocation, de la rendre, si c'est possible, deux fois par mois au lieu d'une fois par mois. Non. Mais quand quelqu'un sait que les nécessiteux ont aussi yani, une part dans cet argent, il va savoir que c'est difficile de la distribuer. Non. Il y a aussi l'exemple de Soukaina bint al-Hussein, radiyallahu ta'ala anha, qui était tellement généreuse qu'elle faisait de don de tout l'argent qu'elle possédait. Et que quand elle n'en avait pas, elle donnait ses bracelets aux nécessiteux. Il y a aussi l'exemple de Umul Banin, la sœur de Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu ta'ala anhu, qui était d'une générosité extraordinaire. Elle disait, que disait Umul Banin? Écoutez bien ce qu'elle disait. Elle disait, à chacun sa passion. À chacun sa passion. La mienne consiste à donner aux autres musulmans. Elle a dit, chacun a sa passion. Celui-là, c'est l'alcool. L'autre, c'est, je ne sais pas, les femmes. L'autre, je ne sais pas. Ben, l'autre, il aime faire la prière. L'autre, il aime jeûner. Moi, ma passion, c'est quoi? C'est de donner aux autres musulmans. Elle disait aussi, fi à l'avarice. Fi à l'avarice. Si c'était un habit, je ne l'aurais pas porté. Et si c'était une voie, je ne l'aurais jamais empruntée. On rapporte même que chaque vendredi, elle affranchissait un esclave et offrait un cheval aux combattants pour la cause d'Allah Azzawajal. Chaque vendredi, qu'est-ce qu'elle faisait? Chaque vendredi, elle affranchissait un esclave. Et en même temps, elle offrait un cheval aux combattants pour la cause d'Allah Azzawajal. N'oublions pas enfin Zubeïda, l'épouse du calife Haroun al-Rachid. Cette femme eut le mérite d'entreprendre un projet de bienfaisance qui fut tellement coûteux que son trésorier essaya de l'en dissuader avant qu'elle ne lui réponde. Elle lui dit, entame les travaux. Même si chaque coup de pioche va te coûter un dinar. Naam. Subhanallah. Elle a dit, je vais faire un grand projet, fisabilah. Alors son trésorier a eu peur. Il lui a dit, d'après ce que tu m'as expliqué, ça va yani, te rendre pauvre. Ça va te rendre pauvre. Elle lui a dit, ne t'en fais pas. Commence les travaux, même si pour chaque coup de pioche, je dois donner un dinar. Naam. Ce projet consistait à quoi? Consistait à creuser près de la Mecque, à l'usage des pèlerins, un fleuve relié aux sources d'eau pluviale, un fleuve industriel, dirait-on aujourd'hui. Ce fleuve fut l'une des merveilles de cette lointaine époque. On l'appelait la source de Zubeïda. Non, la source de Zubeïda. Lahda, inshallah, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Donc, tout acte de générosité est valorisé et apprécié par l'islam. Cependant, cette valorisation prend encore plus d'importance lorsque la générosité est destinée à ceux qui ont vraiment le plus besoin. Dans ces actes de bienfaisance, la musulmane doit donc accorder la priorité absolue aux ayants droit les plus démunis, notamment les nécessiteux, les orphelins et les veuves. Naam. Inch'Allah ta'ala, je vais m'arrêter ici. Bidna azzawajal. Naam. Je vais vous rappeler deux ou trois choses. Vous m'entendez, gros là-bas? Naam. Car aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, je me sens fatigué. Alhamdulillah. La première des choses, pour la sœur qui m'avait demandé le PV la fois passée. La sœur qui m'avait demandé le PV la fois passée, qui, si je n'ai pas oublié, s'appelle Taqiya ou quelque chose comme ça. Je lui ai dit que ma femme et moi, on l'a attendu plus d'un quart d'heure, jusqu'à 20 minutes. et qu'elle avait les PV fermés. C'est-à-dire que, ayant les PV fermés, comment on peut la contacter? Donc, on l'a entendu plus de un quart d'heure ou 20 minutes, mais elle avait ses PV fermés. Qaddarallahu ma shafa'al. La deuxième des choses, c'est que, inshallah ta'ala, demain, il va y avoir qui? Il va y avoir Cheikh Abdullah Al-Ubaylan dans les repères de la Sunna à 20h, inshallah ta'ala, c'est-à-dire 20h française, heure française. Alors là-bas, reprends-moi si je me suis trompé, c'est à 20h ou là à 21h30? À 20h, inshallah ta'ala, demain, dans les repères de la Sunna, naam, avec Cheikh Abdullah Ibn Salah Al-Ubaylan, qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Troisièmement, et c'est ce qui est plus important, c'est ce qui est plus important, naam, c'est pour ça qu'avant de commencer, je vais dire Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Hier ou avant-hier, naam, dans un certain salon, il s'est passé qu'une personne, naam, avait pris le micro et avait dit, entre autres, naam, que Cheikh Abdul Malik Ramadani n'était pas un cheikh et qu'il avait des erreurs dans le minhaj et que il ne mettait pas en garde contre les innovateurs, etc. Naam. Je dis à cette personne, si elle est là, ou si elle n'est pas là, vous lui ferez écouter le charit, naam, que cette personne a dit quelque chose de très grave. Naam. Cette personne a dit quelque chose de très grave. Et deux personnes, en fait, ont fait la faute. Naam. Cette personne a fait la faute et l'admin du salon a fait la faute en laissant cette personne parler ainsi. Je commence par la personne qui a parlé ainsi. Je dis en général, naam, que celui qui dit que Abdul Malik Ramadani n'est pas un cheikh ou bien qu'il a des fautes dans le minhaj et qu'il ne répond pas aux innovateurs, etc. Ou bien il ne connaît pas Cheikh Abdul Malik Ramadani, ou bien il ne connaît pas le Minhaj, ou bien il ne connaît pas les deux, ni Cheikh Abdul Malik ni le Minhaj. Cheikh Abdul Malik, hafidhahullah, c'est un trésor que Allah Azzawajal a donné, naam, aux musulmans et aux Algériens en particulier. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie, Allah Ta'ala est témoin, à rendre et à mettre en garde contre les innovateurs, contre les takfiriyin, contre les soufiyin, contre les shia, contre les mubtadi'a, contre les ahbash, contre qui vous voulez, naam, contre les hizbiyin, contre les khawarij, naam. Depuis 1980, il a déjà, j'avais écouté des cassettes où il parlait des takfiriyin, faisait la polémique, etc. Naam. Personne de vous ne le connaît mieux que moi. Chez moi, il venait plusieurs fois passer la nuit. Je ne le défends pas parce qu'il venait chez moi ou parce que je le connais. Je le défends parce que c'est ça la vérité. Naam. Et que celui qui a dit ça de lui, ou bien comme j'ai dit, il ne le connaît pas, ou bien il ne connaît pas le minhaj. Ne connaissant pas le minhaj, naam, je crois que telle et telle personne n'est pas dans le minhaj. Parce que moi-même, je ne connais pas le minhaj. C'est comme, je ne sais pas, vous connaissez pas l'arabe. Quand je vais parler en arabe, vous allez dire c'est trompé. Pourquoi? Parce que vous connaissez pas l'arabe, c'est tout. Tayyib. Cheikh Abdul Malik hafidhahullah, naam, les grands savants lui ont fait les éloges. Naam. Et Cheikh Rabi' lui a fait des éloges. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Salah Al-Cheikh. Et c'est pas la peine de les citer tous. Ça lui suffit que Cheikh Al-Albani rahimahullah, quand on lui a donné son livre, le livre de Cheikh Abdul Malik Madra, Cheikh Al-Albani a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, en fait, je n'avais pas le temps de le lire, mais j'ai ouvert comme ça la première page pour voir, avoir une idée du livre, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il a dit, je ne me suis pas arrêté de la première page jusqu'à la dernière. Je l'ai lu d'un trait, presque 400 pages. Je l'ai lu d'un trait et j'ai été très émerveillé par ce livre. Naam. À cause de ce livre et d'autres, le cheikh Hafidhahullah vit en Arabie Saoudite. Parce qu'en Algérie, les takfiriyyin les achètent. Naam. Et maintenant, les gens viennent dire que ce n'est pas un cheikh, il ne faut pas le suivre, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Je dis, je redis, si la personne qui a dit ça de lui ne l'avait pas dit en public comme ça devant les gens, je ne l'aurais pas dit. J'aurais dit à cette personne, pourquoi tu as dit cela? Ne dis pas cela, taqillah azza wa jal, et fais la tawba et tais-toi. Mais puisque cette personne a parlé en public, et que beaucoup de gens ont entendu ça, et que peut-être des gens ont eu les choubouettes, peut-être des gens ont dit, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Ce n'est pas un cheikh. Il a des fautes. Il est innovateur. Il est ceci. Alors j'ai vu que c'était obligé de parler en public. Car j'ai une responsabilité demain devant Allah Azza wa Jal. Demain devant Allah Azza wa Jal, j'ai une responsabilité. Naam, si je ne parle pas comme ça en public, pour enlever les ambiguïtés que le frère a dû faire à certaines personnes. Que le frère a dû faire à certaines personnes. Ensuite, je n'oublierai pas de faire la remarque à celle qui a permis à cette personne de prendre le micro et de parler. Car en fait, Naam, on ne doit pas, si on est salafi, laisser une personne dire des choses pareilles dans un salon qui exhorte les gens à suivre la salafia. Ensuite, l'admin pourra dire, moi je ne savais pas ce qu'il allait dire. Réponse, maalesh, c'est possible. Mais après, quand tu as su qu'il a dit cela, pourquoi tu lui as pas mis le point rouge? Pourquoi tu n'as pas écrit, je me désavoue de ce qu'il dit? Naam. Pourquoi tu n'as pas dit, il ne faut pas écouter à celui-là. Pourquoi tu ne lui as pas dit, taqillah azza wa jal. Pourquoi, je dis, si l'admin avait pris le micro et avait parlé, même en étant une femme, les gens ne diront rien. Car il lui est permis, elle parle avec boulanger, elle parle avec le policier, maintenant elle a parlé, c'est quelque chose de grave. C'était pour arrêter quelqu'un, naam, et yani, qu'il ne fasse pas les ambiguïtés aux hommes, aux autres, naam. Je vous demande, naam, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas rentrer dans des choses qui vous dépassent. Naam. Cherchez seulement, demandez seulement la science pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherchez pas, il est comme ça, celui-là est comme ça. Ça, ce sont les savants qui parlent de cela. Cherchez la science, fi sabilillah, essayez d'apprendre des choses, essayez d'avancer. Essayez de craindre Allah subhanahu wa ta'ala au maximum. Essayez de faire la da'wa, naam, en mettant des cassettes, en mettant cela. Naam. Mais ce qui s'est passé dans le salon hier ou avant-hier, pour moi, c'est vraiment quelque chose de grave. Naam. Et pour que les gens qui ont fait cette chose, naam, soient pardonnés, il faudrait que ils disent en public que on se désavoue de ce qu'on a dit. Ou là, ce qu'on a fait, ou là, ce qu'il y a eu dans le salon. Je sais que le frère qui a dit ça était, naam, le frère qui a dit ça était dans un état de colère. Naam. Mais la colère ne me pousse pas à dire de X ou Y qu'il n'est pas salafi, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Allahu Akbar. Naam. Car toute personne qui parle sur Abdul Malik Ramadan et Hafidhahullah et dit de lui, il n'est pas dans le droit chemin, c'est cette personne qui a dit ça qu'il n'est pas dans le droit chemin. Je ne parle pas de la personne d'hier, je parle en général. Toute personne qui dit que Cheikh Abdul Malik n'est pas dans le vrai chemin, c'est lui-même l'égaré. Naam. Tout le monde sait que il a des ennemis. Naam. Tout le monde sait que il y a un groupe qui est contre lui. Naam. D'ailleurs, comme tous les autres. Naam. Je vous rassure que Cheikh Abdul Malik Hafidhahullah, ahsabu kadhalik wa law zakka Allah ahadan, que c'est l'un des meilleurs qu'il y a de notre temps, parmi les jeunes de son âge. Naam. C'est l'un des meilleurs, naam, des grands talabatul ilm. Ahsabu kadhalik wa law zakka Allah ahadan. Naam. Al-muhim, que Allah Azza wa Jal nous pardonne, que Allah Azza wa Jal joigne entre nos cœurs, que Allah Azza wa Jal. Qu'Allah Azza wa Jal, yani, nous aide et qu'Allah Azza wa Jal nous donne la patience. Qu'Allah Azza wa Jal nous excuse nos grandes fautes, nos grandes fautes. Naam. Tayeb. Je n'allais répondre à aucune question parce que j'ai le cœur peiné. Naam. Mais allez, on commence par Ibrahim. Je vais répondre à quelques questions. Ibrahim, oui. Tafadlali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une seule question, inch'Allah, par personne. Barakallahu fikoum. Par contre, Cheikh, est-ce que c'est sur le cours de ce soir ou là c'est libre, inch'Allah? Libre ou sur le cours? Libre, inch'Allah, d'accord. Ibrahim, on vous a enlevé le raid, inch'Allah, posez votre question. Donc le Cheikh a dit que c'était question libre. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Est-ce que la dua du mécréant opprimé est acceptée? Et si possible, peut-on retarder? Donc, une seule question. Barakallahu fik. Qu'Allah vous préserve et vous récompense du temps que vous nous accordez. Amin. Et il y a eu un message de Minhaj al-Haq dit au Cheikh qu'il y a une erreur sur la horte qui s'est fait blesser. Minhaj Sahih. Tfadal Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je crois que pour la sœur, naam, pour la sœur, comment qu'elle s'appelle? Minhaj Sahih, naam. Je viens de voir dans l'admin console, elle n'est pas bouncée. C'est-à-dire que même si elle a été bouncée, elle n'est plus. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer dans le salon. Je crois qu'elle a été bouncée car elle était bloquée. Wallahu ta'ala, a'lam, je crois. C'est pour ça que je viens de voir, elle n'est pas dans la liste. Alhamdoulilah, elle est là avec nous. Naam. En ce qui concerne le kafir, quand il est opprimé, même s'il est opprimé, il fait une doua, Allah Ta'ala accepte ses douas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention, hein, attention aux douas des opprimés. Il a dit, fût-il un kafir, hadith authentifié par Sheikh Al-Albani. Donc même le kafir, s'il fait des douas, parce que tu as fait tort, tu l'as lésé, Allah Ta'ala lui exauce ses doigts pour montrer qu'Allah Ta'ala est tellement juste qu'il n'aime pas l'injustice même avec les kuffars. Quant à la prière du Maghreb, si vous la faites retarder jusqu'à ce que yani, vraiment nuit, c'est interdit. Naam. Si vous la faites retarder 5 minutes, 10 minutes maximum, d'accord. Si c'est plus, non. Parce que yani, quand ça devient tout noir, khalas, salat al-Maghrib, c'est sorti. Naam. Mais inshallah ta'ala, on va voir comment on va faire pour que quand vous faites la salat, j'arrête 5 minutes. Tfadla inshallah ta'ala, le prochain.
Manhaj Salaf Saleh, ça va vous, Inch'Allah. On vous enlève le raid. Salamu alaykum, Cheikhana. Hayakum Allah. Voici ma question, Inch'Allah. Je voudrais, min fadlikum, que vous me fassiez l'explication de ce hadith, plus particulièrement la fin de cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis à un musulman de rompre toute relation avec son frère plus de 3 jours consécutifs. Celui qui agit ainsi et meurt dans cet état entrera dans le feu. Est-ce que si par exemple je coupe les liens avec une personne sachant que lui parler est très néfaste pour ma foi et mon bien-être, je rentre dans ce hadith. Jazakumullahu khayran, cher. Afwan, est-ce que vous m'avez entendu ou je répète, Inch'Allah? Afwan, je n'avais pas vu que le micro. Alhamdulillah. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En fait, le hadith parle de ceux qui rompent. Il y a une différence entre rompre les liens, ne plus lui parler, de dire dans son cœur, je ne vais plus parler à cette personne. Et il y a une différence entre ça et une différence avec yani, ne pas se parler parce qu'on ne s'est pas rencontré. Parce qu'il n'y a pas eu l'occasion, ou là parce que je t'évite, parce que j'ai peur de yani, ta compagnie est néfaste. Non, tout cela est permis. Mais ce qui est interdit, c'est de rompre les liens. C'est-à-dire, même si je te vois, on se rencontre dans le couloir, je te dis pas salam alaikum. Voilà ce qui est interdit. Mais je ne suis pas obligé d'être en compagnie de tout le monde. Je choisis les meilleurs amis, c'est tout. Et les autres, je leur dis salam, je ne coupe pas avec les liens avec eux. Je leur dis salam, comment allez-vous? Et comme ça, là, je n'ai pas coupé les liens, bi-idhnillahi azzawajal. A tfadl, inshallah, le prochain.
Da'wa salafia, c'est à vous, inshallah. Amin. Da'wa salafia, est-ce que vous êtes là, inshallah? Donc, c'est la question de Chedliya 2. Salamu alaykum wa rahmatullah, cher. Suite à ce que vous m'avez dit pour le port de l'abaya avec le khimar qui tombe sur la poitrine, beaucoup de sœurs polémiquent dessus en disant que c'est que vous avez dit, que ce que vous avez dit est faux. Subhanallah. Elles disent que le cheikh Farkous, cheikh Al-Albani, cheikh Abdelhadi et cheikh Ibn Baz, rahimahumullah, ont dit que la femme que la femme qui sort ainsi est dans le péché, mais moi je n'ai rien lu de ce qu'elles m'ont dit, que les grands savants ont dit que le djilbab devait être une pièce ou deux pièces. De plus, elles disent qu'elles ont le droit de dire que ce que vous m'aviez répondu est faux, tout comme le fait qu'elles ont le droit de dire que le cheikh Al-Albani rahimahullah est dans le faux pour le port du niqab, car la majorité des savants disent le contraire. J'aimerais que vous nous rappeliez les conditions du djilbab et conseiller les sœurs face à ce qu'elles ont dit. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je répondrai, inshallah ta'ala, à cette chose ou à cette réponse une autre fois. Pas aujourd'hui, inshallah ta'ala. Naam. Et inshallah ta'ala, je leur ferai aussi un cours comment yani, apprendre à avoir un bon comportement. Naam. Je leur apprendrai aussi comment avoir un bon comportement, inshallah ta'ala. Naam. Tfadla, inshallah ta'ala, le prochain.
Abou Bakr, c'est à vous, Inch'Allah. Salamu alaykoum, cher. Est-ce que la personne Mejnoun est responsable de ses actes? Pouvez-vous me donner les preuves? Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Le Mejnoun, n'est pas responsable de ses actes. Le Mejnoun, pendant la folie, où il est dans la folie, il n'est pas responsable de ses actes. Non, il est responsable avant ou bien après, quand il n'est plus malade. Mais étant malade, tout ce qu'il fait, il n'est pas responsable. Maintenant, s'il fait des choses, yani il fait mal aux gens ou bien casse des choses ou bien les brûle, son tuteur doit quoi? Doit payer à sa place. Par exemple, si un fou casse le pare-brise d'une voiture, alors son tuteur doit payer ce qu'a cassé le fou qui est son fils ou là qui est yani, sous sa tutelle. Naam. Mais avec Allah Azzawajal, il n'aura pas de péché. Naam. Inch'Allah, le prochain. D'ailleurs, le hadith est clair, naam, et explicite. Inch'Allah.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis-je avoir le micro, Inch'Allah? Tfadal, akhi. Akhi, regarde si tu n'es pas en stéréomix, Inch'Allah. Yani, on n'entendait que des grésillements. Et Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps, yani, on va passer à Imran. Et Inch'Allah, on reviendra sur le Akh. Imran, Inch'Allah, c'est à vous. On vous a enlevé le raid, Inch'Allah, posez votre question. Imran, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Yani, cher, elle est en bas, juste au-dessus de vous. Donc, Inch'Allah, on passe à Mouahidine. Donc, Yani, passez là à l'Ghuraba, Inch'Allah, PV. Donc, là, on passe à la question de Mouahidine. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Peut-on donner la zakat à une sœur endettée? Jazakallahu khair et pardonnez-nous pour tout, cher. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam, on peut donner la zakat à une sœur endettée. On peut donner la zakat à une sœur endettée et on a inshallah ta'ala, beaucoup de hasanat. On a beaucoup de récompenses, inshallah ta'ala. Ensuite, quand elle dit pardonnez-nous, il faudrait que vous sachiez que naam, tout ce que j'ai dit, naam, ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit, que yani, maintenant je déteste telle personne, ou je suis contre telle personne, ou la naam. C'est tout juste un rappel d'un père à ses enfants. Un rappel d'un père à ses fils et ses filles, naam, pour que yani, il ne, yani, sans le vouloir, et naam, sans le vouloir, des fois sous la colère, sous ceci, on va dire des choses qui vont faire des fitnas. Naam. Alors je voudrais arrêter ça avant que ça ne devienne une grande fitna qui n'aura pas de fin. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éteigne naam, les fitnas. Tfadla, inshallah, le prochain.
Mohamed, tfadla inchallah, reprends le mic. On va essayer inchallah, tfadla akhi. Mohamed, yani, essaye de prendre le mic inchallah.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? En fait, premièrement, je voulais dire à Shir, Inch'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, jami'an. Je voulais dire à Shir, en fait, pour la salat, que je veux le prévenir, en fait, mais les PV sont fermés, donc je ne peux pas. Et deuxièmement, je voulais signaler à Shir, comme il le sait, qu'en ce moment, sur Palpal, qu'il y a une grande fitna entre les frères salafis et les sœurs. Car il y a des frères qui ouvrent des salons, et des personnes l'écoutent, et certains disent qu'il ne faut pas l'écouter. Et alhamdoulillah, le frère Abdelmalik Al-Faransi, ainsi que vous, Cheikh, et Abdallah Khamstache, vous nous avez bien expliqué la situation, et pour moi c'est clair. Mais il y a pour d'autres personnes, wallahu alam, qu'il faut que vous prononciez le nom de ces frères qu'il ne faut pas écouter, ou ces roums. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et excusez-nous, Cheikh, pour notre comportement.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barak. Vous m'entendez? Naam. Il n'y a pas quelque chose de grave, il n'y a pas quelque chose de plus grave dans le dîn que de quoi? Que de se faire tromper et de se faire dévier du chemin. Il n'y a pas quelque chose de plus grave que cela. Je veux dire que par là que le paltok n'est ni mon bien, naam, ni le bien de Abdelmalik français, ni le bien de Abdelmalik Ramadani, ni le bien de quiconque. Personne n'a le droit, naam, de dire par exemple j'interdis à X de faire des doros. Je veux dire seulement que quand quelqu'un fait des doros, il doit être connu qu'il a un manhaj sahih, c'est tout. Il n'est pas permis à une personne de se cacher derrière un pseudo. Abu Abdallah, je ne sais pas quoi, Abu Abdallah, Abu Omar, Abu Farid, tout ça, tout le monde peut le faire. Mais que la personne dise qui elle est, elle écrit son nom et son prénom, et nous ensuite, on fait des recherches, c'est tout. S'il se trouve que la personne est, mashallah, dans le minhaj, et qu'elle n'est pas du genre falahiste et haddadiste et ces choses que vous ne connaissez pas peut-être, alors que la personne, marhaban biha, je serai, bi'idhnillahi ta'ala, le premier à assister au cours.
Le cher a été déconnecté, yani, donc on va patienter que je revienne, Inch'Allah. Dawal Paltalk, Inch'Allah, est-ce que tu peux mettre le Coran? Barakallahu fik.
Alaykoum salam. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barak. Vous m'entendez? Naam, alhamdoulillah. Je disais, je répète, car je ne sais pas où je me suis arrêté exactement. Je répète, je dis. Le paltok, naam, n'appartient à personne. Quiconque veut faire des doros, naam, il peut le faire sans demander la permission. Mais, je dis, je redis, nous on a peur pour vous, naam, que vous, avec une bonne intention, vouloir apprendre, etc., vous suiviez des gens qui ne sont pas connus, qui ont des erreurs dans le minhaj, des erreurs dans la aqida, et comme ça. Et que, après avoir appris le faux, ça devient difficile pour se redresser. C'est pour cela que, naam, moi je dis, s'il y a une personne qui veut faire les doros, et qui a le niveau et le minhaj est, mashallah, connu, yani je serai le premier bidna azzawajal à quoi? À assister. Je demande seulement à la personne qu'aucune personne ne se cache derrière un surnom, ne se cache pas derrière un pseudo. Naam, Abu Abdillah, Abu Omar, Abu Farouk, Abu je ne sais pas quoi. Naam, dis qui tu es, ton nom, ton prénom, où tu habites. C'est tout. Les frères, vite, vont nous faire quoi? Vont nous faire un compte rendu. Cette personne, naam, c'est Masha'Allah, c'est Salafia, c'est un des élèves du Cheikh Al-Albani, c'est un des élèves du Cheikh Furqo, c'est comme ça, Alhamdulillah. Moi, le premier, je vais venir assister. Mais faut pas que ça soit quelqu'un qui se cache, qui veut pas dire qui il est, où il habite, où il a étudié. Naam. Chaque personne qui veut, bidna azzawajal, faire des cours, marhaban biha. Qu'elle fasse, naam, qu'elle fasse dans son blog, si elle a un blog ou un site, qu'elle fasse dans la première page un petit, quoi? Un petit, je sais pas comment qu'on appelle, une petite biographie. Voilà, je suis né Tagda, j'ai étudié qui? Chez X, chez Y, mon niveau c'est Kda, je suis connu par X et Y, des savants. C'est tout. Et marhaban bik, moi le premier, inshallah ta'ala, je vais assister. Mais, donner des doros comme ça, je viens moi, je vais ouvrir un salon et je vais dire Abu Abdillah al-Jazairi. Allez, Abu Abdillah al-Jazairi. Mais c'est qui Abu Abdillah al-Jazairi? C'est qui? Quel minhaj a-t-il? Avec qui il est? Avec qui il était? Que pense-t-il des grands savants? Que pense-t-il de Cheikh Al-Albani? Qu'est-ce qu'il dit? Et comme ça, où a-t-il étudié? Naam, est-ce quelqu'un peut, tout seul comme ça, il va ouvrir des livres et donner des cours? Naam, peut-être lui, il sait pas qu'il fait des fautes. Mais encore moins ceux qui l'écoutent, s'ils n'ont pas le niveau. Pourquoi je dis cela? Peut-être que certains vont dire que peut-être moi, peut-être Abdelmalek Firansé, peut-être Médine, peut-être, on veut s'accaparer le paltok. On veut, yani, seulement que ce soit nous qui faisons des doros. Allah Ta'ala est témoin que si c'est celle-là notre niya, qu'il nous fasse éloigner de ce paltok. Allah Ta'ala sait que quand je sens qu'il y a quelqu'un qui est mieux que moi, que j'arrête de faire les dars, le dars, et je le laisse. Allah Ta'ala est témoin que une fois j'étais sur le minbar, imaginez, vendredi sur le minbar. Vendredi sur le minbar, khlas, je suis monté sur le minbar. J'ai vu quelqu'un rentrer, mashallah, que je connaissais, un docteur en sciences islamiques. Je suis descendu du minbar et je lui ai dit, c'est toi qui fais la je ne fais pas. J'ai honte devant Allah Ta'ala, tu as un doctorat dans la charia, tu es mashallah, moi je fais pas, c'est toi qui fais. Je suis descendu du minbar. Subhanallah, et lui il est monté à ma place. Peut-être certains ici, le shaitan va leur dire le cheikh il veut faire les doros, ou là il n'aime pas les gens, ou là il est contre les gens, ou là je ne sais pas quoi. Shaitan, il va te dire ça. Moi, ramenez-moi n'importe quelle personne qui a, mashallah, la science, le minhaj, est connu, marhaban bien. Et alhamdoulillah, je vais donner certains jours de ma semaine. Maintenant, je fais 3 cours par semaine. Je commence à voir que c'est beaucoup. Je donne 1 ou 2 cours et je ferai une fois par semaine, inshallah. Mais, je dis, quand une personne n'est pas connue, attention, attention à vous, naam, vous allez avaler des choses, ensuite ce sera difficile pour vous corriger. Al-Muhim, qu'Allah Azza wa Jalla nous aide et nous donne la sincérité. Tfadla, inshallah, le prochain, tfadla.
Yani on avait passé donc la question de Oumma Imran. Est-ce qu'elle a repréparé sa question? Que tu veux directement la lire? Donc tape-moi un akhi lorsque la question est terminée. Barakallahu fik. Salamu alaykoum. Hayakallah cher. Une sœur s'est mariée 2 ou 3 semaines après avoir commis la zina. Et ils se sont repentis qu'après s'être mariés. Leur mariage est-il valable? Aussi, cher, j'avais l'habitude de poser des questions sur des sujets à quelqu'un que je pensais de confiance. Mais un jour, je me suis aperçu, en rentrant dans un salon, que cette personne. Par contre, en début, J'ai précisé que c'était une seule question par personne. Donc à la fois, je ne peux pas lire le reste de la question. Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Fais-moi le plaisir, inshallah ta'ala, de lire cette question parce que je suis curieux, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Jazakallah khair, lila, pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce salon. Tfadal.
D'accord, cher. Yani, c'est juste parce qu'on avait donné la consigne. Donc, je relis, Inch'Allah, la deuxième question. Donc, aussi, cher, j'avais l'habitude de poser des questions sur des sujets à quelqu'un que je pensais de confiance. Mais un jour, je me suis aperçu en entrant dans un salon que cette personne n'a pas interdit la diffusion de musique. La personne a prétexté que je suis rentré et que je ne connaissais pas le contexte de la diffusion de cela. Yani, que cette diffusion de musique était pour une cause valable, de ce que j'ai compris, et que je rentre et juge direct alors que je lui ai dit que je n'acceptais pas ses réponses car j'étais déçu maintenant d'avoir vu qu'elle n'avait pas interdit cela, sachant qu'elle est le modérateur de la room. Y a-t-il un motif qui peut autoriser la diffusion de musique? Car j'ai peur d'avoir jugé hâtivement cette personne et je ne voudrais pas être injuste. Barakallahu fik pour tout ce que vous faites. Qu'Allah vous récompense par le Firdaous. Amin. Et aussi, puis-je avoir votre numéro ou celui de votre femme? C'est pour des questions d'une sœur qui s'est mariée 2 ou 3 semaines après avoir commis. Non, donc, je pense que c'est un mauvais copier-coller. Le reste. Allahu alam. اتفضل الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Quand deux personnes, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve, font la zina, نعم, il leur est interdit de se marier jusqu'à ce qu'ils fassent le repentir sincère. Le repentir, c'est qu'ils ne se parlent plus, ils se quittent, ils ne se téléphonent plus, jusqu'à ce que l'homme aille demander la main à son tuteur à elle, d'une façon officielle. نعم, et entre-temps, chacun a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. C'est en ce sens qu'ils peuvent se marier. Maintenant, s'ils se sont mariés, c'est trop tard. Qu'ils fassent alors le repentir, puisqu'ils ont dit qu'ils ont fait le repentir après. Ils ont dit qu'ils ont fait le repentir après. Mais normalement, on doit le faire avant. Et non pas après. Je dis. Si maintenant ils ont fait le repentir sincère, qu'Allah Azza wa Jal yani accepte d'eux. Qu'Allah Azza wa Jal accepte d'eux, car ils ne savaient pas. Qu'Allah Azza wa Jal accepte d'eux. Maintenant, s'ils peuvent, yani seulement yani c'est conseillé, ce n'est pas obligé, s'ils peuvent, yani, ils peuvent refaire, c'est très facile. Yani, c'est le prétendant qui va demander à son tuteur, devant deux témoins, de lui donner sa fille, seulement devant deux témoins, il lui dit j'accepte et il lui donne une petite dot, comme ça il sort de tous les doutes. Il sort de tous les doutes. En ce qui concerne la deuxième question, pourquoi ça m'intéressait de savoir ce qu'il y avait, en fait, je voudrais vous dire aussi que moi aussi, il m'arrive de rentrer dans des salons et je rentre avec un autre pseudo. Je rentre avec un autre pseudo. Hein? Et que beaucoup de vous qui êtes avec moi dans le salon, hein? Je vous vois et vous ne voyez pas. C'est-à-dire, je vous vois dans des salons et comme ça me permet d'avoir une idée de vous. C'est pour ça que je dis par exemple X. Ah bon, X c'est comme ça. Il vient chez moi tout le temps, mais maintenant il est là avec cela en train de dire MDR, MDR du matin au soir, MDR, en train de rire, la musique, etc. Hein? Donc, pour que vous sachiez que yani, je ne suis pas un espion, hein, mais c'est juste pour avoir une idée de ce qui se passe dans le paletot, de ce qui se passe, quels sont les gens sérieux, quels sont ceux qui ne le sont pas, quels sont ceux qui sont dans ce salon. Ils disent, Masha'Allah, salaf, salafiyya, Masha'Allah, qui sont dans l'autre salon. Critiques. Ils disent, ah, ceux-là sont des telafis, comme ça ils disent. Oh, des telafis, les telafis, ils disent pas des salafis, les telafis, ils commencent à rire de nous. Mais de la musique, Franchement, Naam, je ne sais pas exactement pourquoi. C'est pour cela que je ne peux pas juger à 100%, Naam, que est-ce qu'elle l'avait fait. Car c'est une personne qui est jahila, c'est une personne yani, qui est à la fois faible, c'est une personne qui est loin du minhaj, ou bien, yani, c'était juste pour montrer que yani, voilà ce qu'a dit cette personne, ou là, yani, comme quoi une preuve. Entre parenthèses, c'est un peu étonnant, c'est un peu étonnant, hein, mais je demande à la personne qui a posé cette question, hein, de ne pas porter de jugement jusqu'à ce qu'elle soit sûre. C'est-à-dire qu'elle demande, par exemple, en PV à d'autres gens qui rentrent dans ce salon, est-ce que vous entendez cette personne mettre de temps en temps la musique? Ou bien elle l'a mise seulement une fois. Et comme ça. Car je vous dis que il y a beaucoup, ou disons pour ne pas dire beaucoup, disons, il y a un certain nombre assez important de sœurs et de frères qui rentrent dans des salons où il y a la musique. Et ceux-là, bien sûr, ne sont pas les vrais frères et ne sont pas les vraies sœurs. Ce sont les faux qui rentrent là-bas et ils écoutent la musique. Ils écoutent la musique et ils disent des choses qui ne se disent pas. Que Allah Azzawajal leur pardonne. Que Allah Azzawajal leur pardonne. Tfadlan, inshallah ta'ala, le prochain.
Non, mais cher Yanni, par rapport à ça, également, une fois, j'ai même vu une personne qui était dans l'aroma Salah, Yanni, qui était donc Takfiriya, tous les hukam c'est des kafirs, les grands savants c'est des kafirs, etc. Et subhanallah, une fois, je l'ai vu dans une room, elle avait l'admin et il diffusait la musique. Et après, ils vont rendre kafir les grands savants. Subhanallah. Bref, Yanni, on va passer à la personne suivante, Inch'Allah. Naam, Allahoumusta'an. Les grands savants comme Cheikh Ibn Baz, Rahimahullah, Cheikh Al-Albani, Rahimahullah, ils disent qu'ils sont kafirs et eux, on les voit faire des actes pervers en public. Diffuser de la musique, etc., etc. Khair, Inch'Allah. Al-Ghuraba, est-ce que tu as enlevé la question, le raid à Oum Abdullah? Mouahidine, votre question, Inch'Allah. Naam, Cheikh, mais yani, ça m'a fait rire, subhanallah. Du matin au soir, kafir, 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 kafir. Yani, c'est que eux les croyants, et c'est que eux qui sont sur le bon minhaj, et après ils se pervertissent en public. Yani, si le haq, c'est ça, alors yani, on est tous loin. Et eux les premiers, yani. C'est pour ça que c'est contradictoire. Eux-mêmes en public, ils montrent leur péché. Ah, Mouahidine, vous êtes déjà passé, Inch'Allah. Donc on passe à Oumar Abdallah. Mais je la vois plus, Arkhian, voilà, bah, je sais pas où elle est passée. Donc enlève-lui le. Ah, Oumar Abdallah, on vous a enlevé le raid, Inch'Allah. Posez votre question. Donc, Yanni, il faut soit la découper ou soit la donner en PV. Donc on passe à Minhaj al-Haq. Minhaj al-Haq, posez la question. Et donc tapez 1 lorsque la question est terminée. Donc on va passer d'abord à la question de Oumar Abdallah. Naam. Donc dites-moi, Cheikh, lorsque je lis, Inch'Allah. Et Minhaj al-Haq, votre question n'est pas complète. Hein. Donc là, je lis la question de Oumar Abdallah, Cheikh. Hein. Salam alaykoum, Cheikh. La dernière fois, je vous avais demandé des précisions sur la sunna dans la salat lorsqu'il pleut. Mais je ne vous avais pas précisé, c'était quand l'homme pouvait pratiquer cette sunna en restant à la maison, car mon mari a entendu des personnes dire que c'est seulement avec le sol mouillé et d'autres disent une forte pluie. Barakallahu fikoum de bien préciser, puis-je enregistrer votre réponse. Donc Yanni, ça serait donc par rapport à une faible pluie. Et une forte pluie, c'est ça en fait, Oumar Abdallah. C'est entre les deux, c'est ça? Naam, tfadal cher. En fait, Yanni, la sœur, si je me trompe pas, elle veut savoir si cette sunna, elle s'applique lorsque c'est une forte pluie, Ou alors elle s'applique également lorsqu'il pleut doucement. Yani même s'il pleut quelques gouttes, que le sol est un peu mouillé, est-ce que cette sunna s'applique également? C'est ça, Oumar Abdallah? Naam, tfadal cheikh. Cheikh, vous êtes là, Inch'Allah? Cheikh? Naam, tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Naam, alhamdoulillah. Vous vous rappelez, j'avais dit la fois passée que Cheikh Ben Outhaymine, la yarhamou, Cheikh Ben Baz, la yarhamou, disent par exemple que pour regrouper les salates, quand il y a la pluie, il faudrait qu'elles soient fortes et non pas n'importe quelle pluie. Naam. Ensuite, j'ai parlé de celle de quand un homme veut rester à la maison et ne pas aller à la prière. Non. Ne pas aller à la mosquée. Abdullah ibn Abbas, dans Sahih al-Bukhari, quand il pleuvait, il demandait aux gens, non, de faire la prière à la maison. Il demandait au muadhin de dire Sallu fi rihalikum. Faites la salat dans vos maisons. D'ailleurs, c'est une sunna de faire comme ça quand il pleut. Mais Abdullah ibn Abbas a montré que, pour que les gens, il a dit, ne rentrent pas dans la boue. Ne rentrent pas dans la boue. Naam. On ne va pas aller à la mosquée parce que la pluie est assez forte. On sait, on va se mouiller, on va revenir à la maison comme une poule. Comme une poule. Ce n'est pas parce qu'il y a juste, le sol, il est juste un peu mouillé, et dit classe. J'y vais pas. Naam. D'ailleurs, remarquez que même Allah Azzawajal a dit dans le Coran, dans Sourate An-Nisa, lorsqu'il a dit dans un verset où il a dit وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. Écoutez ce qu'a dit ici Allah Azza wa Jal. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Et il n'y a pas de problème. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ. Et il n'y a pas de problème. Allah Ta'ala a dit c'est permis. C'est permis quoi? إِنْ كَانَ بِكُمْ déposez vos armes. Vous avez remarqué ce qu'il a dit? Un mal de la pluie. C'est-à-dire, si la pluie va vous faire un tort. Donc, il y a pluie et pluie. Allah Ta'ala, quand il a cité dans le Coran, il a cité celle qui fait du tort. C'est pour ça que on voit, est-ce que cette pluie, elle va être assez grande et elle va faire des problèmes, je vais être très mouillé, il y a la boue, il y a comme ça. Si c'est non, il n'y a rien, juste quelques gouttes, ou là ça va s'arrêter, ou là il y a déjà le soleil, etc., de préférence, c'est d'aller à la mosquée bidna azzawajal. Mais pour terminer, je vais dire, si la pluie tombe, elle est en train de tomber, et même si je puis dire, elle est fine, ça ne fait rien. Il a toujours la permission. Pourquoi? Car la pluie peut commencer par fine et ensuite devenir vraiment une grande pluie. Mais s'il n'a rien, il y a seulement les nuages, etc. Il faudrait qu'il aille à la mosquée, inshallah ta'ala. Wallah azza wa jalla a'lam. Tafadhal le suivant.
Non, donc c'était la question de Minhaj al-Haq. Donc tapez un lorsque la question est terminée. Donc il est 23h en France et minuit au Koweït. Est-ce que la question est terminée, Minhaj al-Haq? Barakallahu fikoum. Par contre, Yannick, je me permets quand même de rappeler, Inch'Allah, les questions, il faut les préparer à l'avance. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا ainsi qu'à vous tous. Une sœur vient d'apprendre qu'elle a une tumeur bénigne non cancérigène. Elle ne souhaite pas en parler ni à ses parents ni à ses amis, si j'ai bien compris, hein, pour leur éviter des soucis. Est-ce qu'elle a le droit de le cacher donc à ses parents, sa famille ainsi que ses amis? et dans le cas où la maladie est grave. Jazakumullahu khayran. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, une personne vient de découvrir qu'elle a une tumeur, naam, mais bénigne. Premièrement, elle doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala que cette tumeur ne soit pas cancérigène. Elle doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, naam, car la tumeur bénigne, naam, tout le monde sait que ça peut arriver à tout le monde et que yani, ça ne donne pas naam, obligatoirement le cancer. Donc en ce sens, elle doit remercier Allah Ta'ala le Tout-Puissant. Naam, qu'il ne doit pas donner l'autre. C'est pour ça que j'ai dit que le musulman, toujours, il regarde, naam, il regarde celui qui a plus mal que lui. Et il remercie Allah Ta'ala. Et il voit celui qui est plus pauvre que lui. Et il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça. Naam. C'est premièrement. Deuxièmement, même si elle a quelque chose de grave ou pas grave, elle n'est pas obligée de le dire à ses amis et à la famille lointaine, etc. Mais, de préférence, elle le dit seulement à son père et à sa mère. Naam. Ou bien seulement à sa mère. Et ensuite, sa mère est libre si elle dit à son mari ou pas. Et elle peut enjoindre à sa mère de ne pas le dire aux gens. De ne pas le dire aux gens. Elle peut dire à sa mère, je ne voudrais pas que les gens savent cette chose. Pourquoi, de préférence, les parents doivent savoir? Car on ne sait jamais s'il arrive quelque chose, naam, ils vont quoi? Ils vont la blâmer. Et ils vont dire que si tu nous avais dit ceci, on aurait fait cela, on t'aurait ramené chez le médecin X, on aurait fait ceci, cela, naam, et ça ne va pas se terminer. Yani, ça va, yani, on va lui faire beaucoup de problèmes. Pourquoi tu nous as caché cette chose? On est tes parents, yani, on a le droit de savoir, et comme ça, et comme ça. Naam, je pense que, en ce qui concerne le père et la mère, il est de leur droit, Inch'Allah Ta'ala, de savoir. Maintenant, si elle ne veut pas le dire aux autres, elle est libre, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallah Azza wa Jal A'lam, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il te guérisse, bi'idhnillah Azza wa Jal, et nous guérisse tous et toutes. Fadlan.
Yani, vous voulez savoir quoi dans le cas du Zawaj? Yani, si cette personne, par exemple, doit prévenir un prétendant, c'est ça? Si une personne la demande en mariage, est-ce qu'elle doit prévenir qu'elle a une tumeur, c'est ça? Naam, c'est ça, cher. Atfadan, Inch'Allah.
Salam, rahmatullah wa barakatuh. Wallah, pour être franc avec vous, je ne sais pas, yani, au fond, exactement à 100%, c'est quoi la tumeur bénigne. Et si c'est quelque chose qui peut, yani, aller vers le grave, ou là, elle ne peut pas. Je sais qu'en général, cette chose ne va pas vers le grave. Je sais, en général. Mais si la personne sait que cette maladie est une chose qui peut aller vers le cancer, etc., il faudrait qu'elle dise au prétendant pour qu'il sache. Naam. Les médecins disent qu'on vit avec son problème. Naam. Si c'est une chose qu'on vit avec son problème, ce n'est pas grave. Naam. Si ça ne devient pas, comme j'ai dit, yani, ça ne devient pas le cancer, yani, qui est grave. Naam. Si c'est comme ça, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas grave, bi'idhnillah Azza wa Jal, au point de le dire. Naam. Wallahu Ta'ala A'lam. Tfadl le prochain.
Salamu alaykum, Cheikhana. On a parlé dans un ancien dars de certaines sunnan attachées à la prière. Et je n'ai pas bien entendu l'une qui concernait le Aïcha, où on disait qu'il était possible de guider la prière du Aïcha en silence pour un homme. Jazakumullahu khayran de me préciser si j'ai bien compris. Atfadal Cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je ne pense pas avoir dit cette chose. Car la Aïcha, la sunna, c'est de la faire à haute voix. Mais si toutefois il l'a fait à voix basse, naam, il vient de délaisser une sunna. Il vient de délaisser une sunna. Mais la sunna de l'Aïcha, c'est de la faire à voix haute. Naam. je ne pense pas avoir dit que yani, il fallait la faire de voix basse. C'est sûrement que la personne ne m'a pas compris. Non. Mais une fois j'ai dit que le contraire était valable, c'est-à-dire comme le dhohr ou bien le asr, on peut réciter quelques versets à voix haute, comme le faisait de temps en temps le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans un hadith authentique. Non. Tfaddal.
بنت عبد الله سابو ان شاء الله بنت عبد الله اسكو فيزيت لا ان شاء الله طب اخي الغرباء سي لا كيسيون اي تيرميني السلام عليكم يا شيخ ainsi que vous tous j'aimerais savoir s'il fait partie de la sunna de laisser couler l'eau sur nous après avoir fait les ablutions c'est-à-dire qu'on ne s'essuie pas تفضل شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de temps en temps, na'am, ou des fois, il ne s'essuyait pas. Il ne s'essuyait pas. Mais s'il veut s'essuyer, il y a des hadiths authentiques, na'am, où une des épouses du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui donnait la serviette pour s'essuyer. C'est pour ça que, na'am, qu'est-ce qu'on voit? Il y a des personnes, par exemple, qui, tellement elles sont habituées à s'essuyer, que si elles ne s'essuient pas, c'est vraiment difficile. Ensuite, surtout si on va faire la prière, on ne va pas s'arrêter de se frotter le visage, de mettre les doigts dans les oreilles, surtout les oreilles. Ça commence à gratter comme ça. Ça devient vraiment difficile. Mais si de temps en temps, on ne s'essuie pas, naam, ça se fait. Bi'idnillahi azzawajal. Naam. Fadla inshallah le prochain.
Par contre, cher Yaniel, non, c'est pas vrai. Voilà la réponse du cheikh. Donc on passe à la question de les jumeaux. Salam alaykoum. Excusez-nous pour notre comportement envers vous, cheikh. Voilà, ma mère est malade et je rêve souvent qu'elle est arrivée au terme de sa vie. Qu'en pensez-vous, cheikh? Dois-je lui dire mon rêve? Barakallahu fikoum. Tfadal, cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. En ce qui concerne quand quelqu'un rêve d'une personne qui va mourir, etc., hein, surtout si c'est sa mère ou son père, bien au contraire, elle doit lui cacher ces choses. Au contraire, quand quelqu'un est malade, etc., on ne va pas, hein, lui faire peur ou là je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Mais au contraire, on essaie de lui annoncer les bonnes nouvelles. Et de lui dire que de faire des doigts comme ça devant lui et de dire je demande à Allah Azza wa Jal que il rallonge la vie de ma mère dans son obéissance, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui rallonge sa vie pour qu'elle vive encore avec nous et comme ça, mais lui dire que j'ai vu dans le rêve que tu allais mourir, etc., vraiment yani, ça ne se fait pas. Et même si on voyait ça, on ne doit pas dire naam à la personne, mais on ne doit lui dire que les choses qui lui font plaisir. Naam. Mais je veux qu'elle avance dans la religion, c'est pour ça que je veux lui dire. Mais je veux qu'elle avance dans la religion, c'est pour ça que je veux lui dire. Naam. J'ai peur que ça donne quelque chose, ça donne le contraire. J'ai peur que ça donne le contraire. Naam. Déjà, j'ai dit une fois que le fait de voir mourir, ce n'est pas une preuve que la personne va mourir. Non, ça c'est premièrement. Deuxièmement, il y a d'autres façons de l'exhorter à avancer dans la religion. Il y a d'autres façons et d'autres solutions. Par exemple, c'est de lui dire ma mère, je t'aime tellement que je voudrais que tu sois dans le paradis, je voudrais pas que tu ailles en enfer, je voudrais tout ce qui te fait mal me fait mal. Maman, tout ce qui te fait mal me fait mal moi aussi. Et comme ça, non. Tu peux lui dire en général que je vois des fois des rêves qui sont pas bien sur toi. Non. Et j'aime pas qu'il t'arrive du mal. Je voudrais que yani, tu mettes par exemple le djilbab, que tu fasses la salat à l'heure. Et comme ça, et comme ça. Mais sans lui dire que j'ai vu que tu es morte. Et tu peux lui dire que je vois des choses qui sont pas bien, que je voudrais pas te raconter, etc. Hein? C'est pour ça que je te demande de faire la prière à l'heure, etc. Je demande à Allah Ta'ala Tout-Puissant qu'il lui ouvre son cœur pour qu'elle commence à appliquer. A tfadla, inshallah, le prochain.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est à vous, inshallah. Est-ce que vous êtes là, inshallah? Yani, on n'a pas reçu la question. J'ai uniquement tfadal akhi barakallahu fik. Non, mais j'attends la question, inshallah. C'est possible, non. J'ai ouvert le PV. Assalamu alaikum. Je t'ai ouvert le PV. Yani, pose-moi la question en PV. J'attends la question en PV, Annie, je l'ai ouvert. Inch'Allah, on passe à Abu Mohamed ou à Mohamed. Salam alaikum. Prends le temps, Inch'Allah, de. Non, mais on perd du temps. C'est pour ça préparer les questions. Et lorsque les questions sont trop longues, Annie, il faut les découper. Ou alors vous les posez en PV, comme on le dit, Inch'Allah, à chaque fois. Moi, j'ai ouvert le PV, Annie. Prends le temps de la rédiger, la question, et on va passer à Abu Mohamed ou à Mohamed. Inch'Allah, vous enlevez le raid, posez la question. Abu Mohamed ou Mohamed, est-ce que vous êtes là? On passe à Abu Asiatou. Non, mais on vous enlève le raid et vous posez pas les questions. Donc on patiente et on perd du temps. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fadilatou Cheikh, barakallahu fikoum. Est-ce que le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa, les salat, ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, après salat subh, dhuhr, l'isha, afin de faire 100 par jour les bid'a, sachant qu'avec les occupations pendant la journée, j'oublie. Est-ce que je peux avoir le pseudo de votre épouse? Hafiza Allah, Ahsan Allah, ilaykum, wa jazakum Allah khayran, al-jaza. Khair, inshallah, c'est pas grave. Tfadal, Cheikh.
Wa alaykum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Tayyib, Abu Muhammad et qui? Attendez, Abu Muhammad et Umm Muhammad. Naam. Umm Muhammad, ton PV est fermé. Umm Muhammad, ton PV est fermé. Taïb, elle avait dit que le fait de dire ces choses-là après Salat d'or et Isha et quoi aussi? Nam et Nam. Nam après Salat Subh d'or et Isha. Nam. En principe, ces évocations, bien ces invocations, on les fait comme ça pendant la journée. Nam, on les fait pendant la journée. Maintenant, si on ne se rappelle de ces choses que pendant la salat. Alors on les fait non pas parce qu'elles ont un lien avec la salat, mais parce que je viens de me rappeler de ces choses. Voilà la différence. Ça veut dire que si quelqu'un les fait spécialement pour que ça soit après la salat, ça rentre dans la bid'a. À part les choses qui sont yani vraies, comme par exemple après Salat al-Subh, vous savez que après Salat al-Subh, c'est bien de faire des évocations pareilles. Mais par exemple, après Salat al-Dhuhr, il n'y a pas cela. Après Salat al-Isha, il n'y a pas cela. Donc si quelqu'un les fait parce que il vient juste se rappeler et qu'il avait oublié la journée, il veut les refaire maintenant, c'est permis. À condition qu'il ne fasse pas de relation avec la Salat. Sauf si, comme j'ai dit, Salat al-Subh.
Salam alaikum, est-ce que vous avez fini de rédiger la question? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous avez terminé de rédiger la question, inshallah? J'ai rien reçu en PV. Je sais pas si vous êtes toujours là. Naam khair, inshallah, on passe à Abu Asya. Sinon, si la question elle est toujours sur la room, il y a juste un copier et juste un copier-coller en PV, c'est tout, pas besoin, sinon tout rédiger. Abou Assia, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Donc on passe à Bint Adam. Donc posez la question alors, Abou Assia, Inch'Allah. Donc pour éviter de perdre du temps, Bint Adam, vous pouvez poser la question, Inch'Allah. Subhanallah, on perd beaucoup de temps. Bint Adam, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Subhanallah. Bon, on n'a rien reçu. Donc je le répète, Inch'Allah, lorsque les questions sont trop longues, allez découpez-les découpez-les et vous faites plusieurs morceaux. Ou alors vous les envoyez directement en PV. C'est trois personnes ça va faire 5 minutes, il n'y a aucune question qui est passée. Donc c'est 5 minutes de perdu. Donc ce sera des personnes en moins qui vont passer. Naam, tfadal cher.
Alors, puisque ils n'ont pas pu poser leurs questions, on va, inchallah ta'ala, s'arrêter ici. Je pense que Ben Adam qui fait des copier-coller, ça marche pas, donc ça va être difficile pour elle, parce que on va dire je suis arrivé jusqu'à poser la question, elle n'est pas passée. Donc on l'attend, inchallah ta'ala, pour que elle essaye encore. Et lis-toi, lis la question en rouge, Muslim, lis la question en rouge.
Non, Cheikh Yani, c'est pas une question, c'est juste un rappel du frère Darwal Paltalk. Yani, il n'y a aucune question. C'est pour ça, subhanallah, 5 minutes, on a agi, personne n'a posé une question. Trois personnes, subhanallah. Khair, inshallah. En tout cas, barakallahu fikoum, Cheikh. Hayakumullah. Et comme l'a dit le frère Al-Ghuraba, inshallah, allez vous reposer. Yani, on vous remercie d'avoir accordé ce temps pour les questions-réponses. Alors que tout à l'heure vous étiez fatigué, vous ne deviez pas en fait accorder du temps pour les questions-réponses. Barakallahu fikoum, cher. Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais vous dire avant de quitter le salon que inchallah ta'ala demain il y a Cheikh Loubaïlan hafidhahoullah, et que vendredi inchallah ta'ala après les repères, je vous rencontrerai inchallah ta'ala, ou bien pour questions réponses ou bien pour faire un autre concours comme la fois passée bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. J'espère que je n'ai fait de mal à personne. Et que Allah Ta'ala sait que je ne voulais blesser personne. Je voulais seulement faire des remarques. Pour que, Inch'Allah Ta'ala, les fitnas ne nous tombent pas dessus. Et que malgré cela, si jamais il y a quelqu'un que j'ai blessé sans le vouloir, qu'il me pardonne et que Allah Azzawajal me pardonne. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته